Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes donc le mardi 17 mars, ce matin encore un 7-9 spécial entièrement consacré à l'épidémie de coronavirus. Trois invités ce matin à 7h50, Léa.
L'Europe semble plus dépassée, plus divisée que jamais face à cette très grave crise sanitaire. Le Conseil européen exceptionnel de ce soir va-t-il changer les choses? On pose la question au président du Conseil européen, Charles Michel, sera avec nous à 7h50.
Et à 8h20, Léa, nous recevons dans le grand entretien de la matinale le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard, évidemment, est ouvert et vous attend. 8h50, Léa.
Josiane Chevalier, la préfète du Grand Est et du Bas-Rhin, les régions les plus touchées par cette épidémie.
Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une, la guerre est déclarée.
Nous sommes en guerre, a effectivement répété 6 fois hier soir Emmanuel Macron lors de son intervention, détaillant une nouvelle série de mesures pour stopper l'épidémie de Covid-19. Déplacement réduit au strict minimum à partir de midi. 100 000 membres des forces de l'ordre mobilisés pour faire respecter les consignes, mais aussi l'installation d'un hôpital de campagne dans l'est de la France et la fermeture des frontières de l'espace Schengen. Alors comment parents et enfants ont-ils vécu cette première journée de devoir à la maison? Reportage dans le Morbihan. Nous irons également à Codogno en Italie, première commune touchée et dont la situation s'améliore nettement. Et puis de la pop anglaise avec le premier album de James Wrighton, l'ex du groupe Klaxons.
Soyez les bienvenus dans ce 7-9 spécial.
France Inter.
Le visage grave, le ton solennel, Emmanuel Macron s'est donc adressé hier soir pour la deuxième fois en 4 jours aux Français face à la progression du Covid-19, 148 décès, 6633 contaminations. 2 nouvelles mesures vont entrer en vigueur tout à l'heure à midi. Des mesures plus strictes de confinement, même si le mot n'a jamais été prononcé. Cyril Gradiani.
Emmanuel Macron a d'abord voulu et avant tout mettre les Français face à leurs responsabilités, notamment tous ceux qui ont bravé les interdictions de sortie.
Je veux dire ce soir très clairement, non seulement vous ne vous protégez pas vous, mais vous ne protégez pas les autres.
Alors, dès ce midi...
Et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits.
Le chef de l'État n'emploie jamais le terme de confinement, il se veut plus explicite.
Je vous demande de rester chez vous.
Il privilégie un ton martial.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes, mais l'ennemi est là. Invisible, insaisissable, qui progresse.
Nous sommes en guerre, il le répétera 6 fois. Parfois, le président se montre flou, comme lorsqu'il évoque le second tour des municipales.
J'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté.
Mais il jure que le gouvernement n'aura plus qu'une priorité, la lutte contre le Covid-19.
De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues. À commencer par la réforme des retraites.
En toute fin d'allocution, il prévient à nouveau les Français.
La France vit un moment très difficile. Nul ne peut en prévoir précisément la durée.
Emmanuel Macron leur promet de revenir régulièrement expliquer la situation.
Alors, si aucune date précise n'a été donnée pour le second tour des élections municipales, la date du 21 juin semble avoir été évoquée. Un peu plus tard dans la soirée, c'est le ministre de l'Intérieur qui a décaillé ce qu'il sera désormais possible de faire et ce qui sera formellement interdit. Christophe Castaner a utilisé, lui, le mot de confinement, précisant qu'il s'agit de mesures sur le modèle italien et espagnol. Le détail avec Ariane Grissel.
À partir de ce midi, les quelques déplacements tolérés le seront pour aller acheter des biens de première nécessité, pour raisons médicales, également pour aller travailler si l'activité ne peut pas être interrompue et que le télétravail n'est pas possible. Sortie autorisée également pour les impératifs familiaux, aider un proche dépendant ou, dans le cas des parents qui s'occupent de leurs enfants en garde alternée pour le passage de relais. Quelques sorties de confort possibles également, promener le chien, faire du sport, mais toujours près de son domicile et pas en groupe. 100 000 policiers et gendarmes seront déployés pour veiller au respect de ces consignes, ce qui veut dire que l'on devra se munir d'une attestation à chaque déplacement, un document que l'on peut télécharger sur le site du ministère de l'Intérieur ou rédiger sur papier libre, dans lequel on certifie sur l'honneur que l'on était obligé de sortir et l'on explique pourquoi. Il faudra l'avoir sur soi dans tous les cas, même pour aller acheter son pain. Ceux qui n'arriveraient pas à prouver leur bonne foi à un contrôle sont passibles d'une amende de 38 euros. Pour le moment, le gouvernement réfléchit à l'augmenter à 135 euros.
L'objectif est évidemment de limiter le nombre de cas graves de Covid-19 pour éviter la saturation des services d'urgence et de réanimation, comme c'est le cas déjà dans le Grand Est avec l'important foyer de contamination à Mulhouse. Le chef de l'État a annoncé la mobilisation de l'armée avec la mise en place d'un hôpital de campagne en Alsace. Une tente médicalisée va permettre d'accueillir jusqu'à 30 patients sous la surveillance de médecins et infirmières militaires, et des avions militaires pourront transporter des malades d'une région à une autre en fonction des places, y compris de et vers l'outre-mer, bien sûr. Des décisions bien accueillies par la communauté médicale. Le professeur Gilles Pialou est le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Tenon.
On a raté le premier contrôle de l'épidémie, c'est clair, niveau 1, niveau 2. Donc pour passer à autre chose et essayer que cette vague soit la moins importante possible, on a besoin d'un confinement et de taper fort sur la circulation du virus qui circule chez des gens qui ont peu de symptômes. On est obligé d'en passer par le confinement, puisque de toute façon, l'autoconfinement, ça ne marche pas chez les Français.
Et donc pour l'hôpital, ça va signifier quoi?
Ce qu'on espère, c'est à court terme qu'il y ait une diminution de la circulation du virus et donc proportionnellement des formes graves qui vont embouteiller l'hôpital et surtout les réanimations. Et là, les gens vont rester confinés. La plupart seront peu malades, ou pas malades bien sûr, et donc on n'aura pas besoin de se précipiter dans les hôpitaux publics comme on l'a vu au début de cette crise. Puis nous, on va pouvoir se concentrer sur ce qui nous arrive, c'est-à-dire les 15% de formes graves qui nécessitent une hospitalisation et surtout probablement les 5% qui ont besoin de ventilation artificielle, de réanimation, d'équipes spécialisées, alors que le reste de ces soins de réanimation doit se faire aussi pour les autres personnes qui en ont besoin.
Réaction recueillie par Daniel Messager.
Il est 7h06, Agnès, autre volet important de l'intervention du chef de l'État hier soir, l'aide aux entreprises.
Aucune entreprise ne sera livrée au risque de faillite, aucune française, aucun français ne sera laissé sans ressources, a dit Emmanuel Macron. Une enveloppe de 300 milliards d'euros servira de garantie pour les prêts des entreprises. Pas d'impôts ni de cotisations sociales pour les petites entreprises en difficulté qui n'auront pas à payer le loyer, le gaz et l'électricité. Un moratoire sur les loyers que plusieurs associations demandent également pour les locataires les plus fragiles. Claire Chaudière.
Qu'il s'agisse des conséquences du chômage partiel ou de contrats courts manqués dans les prochaines semaines, la question des loyers risque de se poser bien au-delà des entreprises, répète Eddy Jacquemart, le président de la Confédération nationale du logement, qui réclame leur suspension pour tous les ménages qui auront perdu des revenus, beaucoup étant déjà financièrement à flux tendu.
Il faut absolument qu'on puisse obtenir le moratoire du paiement des loyers, mesure exceptionnelle, mais on est bien dans une situation exceptionnelle. On est déjà presque à 40% de taux d'effort, hein, quand on fait le rapport entre le revenu et la quittance, on va se retrouver dans des situations compliquées.
Suspension et à minima, étalement des loyers, demande la CNL. Pour les 5 millions de logements du parc HLM, les bailleurs sociaux, eux, examineront avec attention les situations les plus délicates, promet Marianne Louis de l'Union sociale pour l'habitat, mais au cas par cas.
On a déjà identifié des catégories professionnelles, les gens qui travaillent dans le champ du spectacle, dans le champ de la sécurité, dans la restauration, qui vont être extrêmement touchés. Il y aura un examen de leur situation qui sera fait de façon très individuelle.
Quant à la réforme du mode de calcul des APL, qui devait entrer en vigueur début avril et qui suscite depuis plusieurs mois des inquiétudes, son report en raison de la situation sanitaire et sociale serait d'ores et déjà acté.
Les taxis seront quant à eux réquisitionnés pour permettre au personnel soignant d'aller travailler dans un contexte où les transports en commun vont se raréfier. Et si le secteur aérien plonge avec par exemple la compagnie australienne Qantas qui réduit de 90% ses vols internationaux, Amazon pendant ce temps va recruter 100 000 personnes aux États-Unis pour faire face à l'afflux de ventes en ligne. En France, l'usine Dunlop à Amiens va stopper sa production à la fin de la semaine après l'apparition d'un premier cas de coronavirus. Les syndicats CGT et FO des chantiers de l'Atlantique demandent de leur côté la fermeture des ateliers de Saint-Nazaire où travaillent près de 5000 personnes. Partout dans le monde, les bourses dévissent. Moins 5,75% à Paris hier soir, moins 13% pour le Dow Jones à New York, du jamais vu depuis 1987. Certains évoquent déjà l'hypothèse de la fermeture des marchés boursiers. Et c'est une drôle de vie qui a commencé dès hier matin pour les 12 millions d'élèves censés désormais travailler à la maison. pas facile, techniquement d'abord, avec des sites totalement saturés hier qui ne fonctionnaient pas. Et puis se mettre au devoir avec papa-maman, ce n'est pas facile, ni pour les uns, ni pour les autres. Wafia Kenich a rencontré une famille qui vit à Vannes, dans le Morbihan.
Sur la table de la cuisine, un dictionnaire, des cahiers, des feuilles et des stylos en pagaille. Tout autour, sur des tabourets, trois petites blondes, Marthe, 5 ans, Perle, 7 ans et Fleur, 9 ans.
Ça me fait un peu bizarre de pas aller à l'école ce matin. Ça fait un peu comme si on était un peu en vacances, mais pas tellement parce qu'on travaille.
Dictée, lecture, mathématiques, plus le repas de midi et un petit coup d'aspirateur à 10h, Stéphanie, leur maman, n'a pas arrêté. Et pourtant, quand elle fait le compte...
Je pense qu'on a dû travailler 1h30, ouais, c'est ça, de 9h à 10h30. Et là, il était grand temps de les mettre dehors à récréation. Là. Et on réalise la patience que ces enseignants doivent avoir pour que justement, sur la durée, ça puisse bien se passer et qu'on puisse continuer à travailler tous les jours dans la bonne humeur. Ouais.
L'autre enseignement de cette première matinée, impossible pour cette salariée de 43 ans de télétravailler et de faire classe à ses filles au même moment.
Et pour aider aux révisions, France Inter et France Culture proposent toute une série de podcasts pour les petits et les grands. Rendez-vous sur nos sites internet.
Il est 7h10, Agnès, un confinement qui touche désormais un grand nombre de pays.
L'Union européenne ferme à partir d'aujourd'hui et pour 30 jours toutes ses frontières extérieures. La Colombie, mais aussi la Russie et le Chili ferment également leurs frontières jusqu'au 30 mai. La Tunisie suspend tous les vols internationaux. La population du Venezuela est mise en quarantaine. Même le gouvernement britannique, jusqu'ici très réticent à prendre des mesures strict, a demandé hier au public d'éviter tout contact social et déplacement non essentiel. Aux États-Unis, la primaire démocrate de l'Ohio a été suspendue quelques heures seulement avant l'ouverture des bureaux de vote. Et puis, il y a les pays où l'épidémie a commencé plus tôt et où les premiers signes d'amélioration apparaissent. Ainsi, en Italie, la ville de Codogno, la première touchée par le Covid-19, les 15 000 habitants ont été coupés du monde et soumis à des mesures drastiques durant 2 semaines. Résultat, le nombre de cas a chuté. C'est un reportage de l'envoyé spécial de France Inter en Italie, Omar Waman.
À Codogno, la population respire, mais il ne faut pas pour autant crier victoire, selon le chirurgien Ezio Scarpanti.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de cas, mais la courbe qui était exponentielle et qui augmentait jusqu'à ces derniers jours a commencé à baisser, à chuter. Mais malheureusement, nous ne sommes pas encore au niveau zéro.
Et pour obtenir ces résultats encourageants, il a fallu mettre en place des mesures de confinement drastiques que la population a jugées nécessaires. Piera, une commerçante du centre-ville.
On ne l'a pas vu comme quelque chose qui était destiné contre nous, mais pour nous. Les restrictions indispensables. Il faut prendre l'Italie comme un modèle à suivre et il faut même aller plus loin.
Les habitants de Codogno se sont pliés à ces restrictions avec beaucoup de civisme et de discipline. Le prêtre Antonello Martinenghi.
Maintenant, tout le monde a compris que ce n'est pas Codogno. C'est l'Italie, c'est la France, c'est la Belgique, c'est l'Espagne. Nous sommes tous dans le même bateau, quoi. Le bateau de l'humanité.
Une humanité à l'épreuve du coronavirus que cette petite ville de Lombardie est en passe de vaincre. Codogno, Gilles Gallinaro, Omar Waman, France Inter.
Enfin, en Chine, foyer de l'épidémie, la situation aussi s'améliore nettement avec 21 cas de contamination hier, un seul cas local et 20 cas importés avec des personnes donc entrées dans le pays. Pékin a donc commencé hier à placer les arrivants de l'étranger en quarantaine obligatoire de 14 jours dans des hôtels réservés à cet effet. Enfin, nous évoquions hier les livres pour passer ces longues heures confinées chez soi. Il y a aussi bien sûr la musique avec le coup de cœur ce matin de Mathieu Culeron et un premier album solo pour James Whiten, ancien membre du groupe anglais Klaxons. It's all a
mystery. James Wrighton a changé de statut. Autrefois leader du groupe branché Klaxons, le musicien anglais s'est enfin trouvé une identité musicale propre. Ce disque parle de lui, mais aussi de sa femme, Karen Knightley, et de sa fille. Un album personnel qui s'imposait.
I can't really write about anything else now.
En fait, je ne peux écrire sur rien d'autre, je crois. Mais en même temps, c'est très spontané. C'est pas du tout comme si je cherchais un thème à aborder ou un sujet de chanson. Ces titres se sont imposés d'eux-mêmes. Je me suis surpris à écrire une chanson sur ma fille. Je n'avais plus peur de parler de ça. À 22 ans, j'aurais été pétrifié à cette idée.
Yeah, I know that you smile.
The Performer est un album à la production léchée. Derrière la console, on retrouve les Belges de Soulwax, un disque de pop anglaise classique, donc, mais extrêmement élaboré.
It has to feel analog and weird and wonky.
Ce disque devait sonner analogique, bizarre, bancal, gay et légèrement tragique. Ma référence, c'était les comiques des années 80 comme Steve Martin qui faisait du stand-up. J'aime cette idée d'être seul sur scène, dans la lumière, et de créer à partir de rien. Le premier album solo de James Wrighton est une réussite, un disque ambitieux et élégant, des chansons qui marquent un tournant dans la carrière du chanteur anglais.
Ce premier album solo de James Wrighton sort vendredi.
Merci Agnès Soubiran. Il est 7h15. Merci d'écouter France Inter et France Culture.